Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine formidable. Merci Léana qu'on retrouvera à 17h45 pour Info Soir. Autour de la table aujourd'hui avec moi, Gilles Tavergeux, Olivier Ledin, Jean-Luc Leroux, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vois que vous avez tous le sourire et on ne se demande pas pourquoi. Olivier Ledin, le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, back to back, deux années de suite.
Tout va bien, il n'y a pas grand-chose qui va en Calédonie en ce moment, mais j'avoue que ça c'est pas mal, ça nous fait du bien. Deux ans de suite, alors que ça faisait 40 ans qu'on attendait, donc c'est parfait. Ne changez rien, on est prêt pour la troisième.
Alors avant qu'on débriefe un peu cette finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, un petit mot pour les Marseillais, ça y est, vous êtes devant. Deux Ligue des Champions pour le PSG, une pour l'OM, Gilles Tavergeux, c'est fait.
Oui, c'est fait, mais bon, ils s'y attendaient. Hein, mais
il y a longtemps que c'est fait, non?
Ça fait un moment quand on leur a expliqué comment il fallait jouer au football, mais maintenant, voilà, la preuve est là.
La preuve est là, donc Paris Saint-Germain, vainqueur de cette Ligue des Champions, une finale... Alors, je ne sais pas, vous allez peut-être me donner le mot pour définir cette finale, fermée, plus que fermée même.
Cadenassée, ouais, complètement cadenassée. On avait cru jouer contre une équipe italienne des années 80-90. Hein,
exactement.
Le fameux Catenaccio, là, Arteta, il l'avait mis en place. Hein.
Alors, ce n'est pas surprenant du côté d'Arsenal, cette défense, un match 120 minutes à défendre. Voilà, en plus en marquant dès les premières minutes.
C'est sûr que le fait de marquer très vite, ça a renforcé sa tactique, mais son choix tactique en tous les cas. Mais effectivement, c'est assez. S'ils n'avaient pas marqué tôt, ça restait une tactique surprenante malgré tout, parce que ils se projettent pas tant que ça, donc derrière, c'était quand même compliqué de marquer des buts, quoi.
Et Jean-Luc Leroux, vous avez suivi cette finale attentivement. Qu'est-ce qui vous a marqué? C'est cette faculté d'Arsenal à défendre pendant 120 minutes. C'est le PSG qui est capable d'attendre et attendre le bon moment.
En fait, j'ai trouvé que le match était intéressant à partir des tirs au but, moi.
On a commencé à stresser.
Parce que très franchement, avant, c'était pénible, quoi. Il y avait quelqu'un qui défendait, qui avait mis l'autobus à Impérial devant les buts. Comme disait je sais plus trop qui, il y avait les roussettes qui étaient étalées la tête en bas sur la barre transversale, donc ça pouvait pas passer. Et puis en face, un PSG qui piétinait, qui avait beaucoup de mal, parce que vraisemblablement un petit peu de fatigue quand même après tous ces matchs. Je crois qu'il y avait une différence de 20 matchs entre Arsenal et le PSG sur la saison.
Alors non, parce qu'il y a 63 matchs pour Arsenal, 56 pour le PSG. Donc Arsenal avait plus joué que Paris.
C'est ce que je dis, oui. Ouais. Enfin bon, peut-être alors moins de différence, mais il y avait comme une différence. Arsenal avait beaucoup plus joué que Paris. Et moi, j'ai trouvé que Paris avait un petit peu de la boue dans les bottes. Ça bougeait pas comme d'habitude. Pourtant, les mecs, on voyait qu'ils se démenaient, quoi. Mais en face, il y avait un mur et ce match était pénible. Voilà. Moi, très franchement, j'ai pas été enthousiaste. Juste au tir au but, j'ai trouvé que là, c'était palpitant, les tirs au but. C'est passé quelque chose, quoi.
Mais alors, avec une finale comme celle de l'an dernier entre le Paris Saint-Germain et l'Inter, où ça se termine à 5-0, cette année, est-ce qu'avant la rencontre, on pouvait s'attendre à la même chose ou avant, on se disait déjà, allez, ça va être beaucoup plus compliqué qu'Arsenal qui va jouer 90 minutes derrière?
On se doutait que ça serait beaucoup plus compliqué. D'abord, Arsenal avait fini en tête de la phase de poule, faut pas l'oublier.
Champion d'Angleterre aussi.
Il venait juste d'être titré champion d'Angleterre. Meilleure défense de la Champions League en ayant encaissé que 6 ou 7 buts. Donc il y avait quand même des signes avant-coureurs de ce genre de tactique. Après, ce qui aurait pu faire sauter la tactique d'Arteta, c'est que Paris marque très vite, en fait. Ça aurait obligé Arsenal à se découvrir et ça aurait ouvert des espaces derrière. On a vu que Gvara, qui avait été omniprésent sur tous les matchs à qualification directe, hein, depuis les quarts de finale, avait pas eu l'impact habituel.
Il était verrouillé. Voilà.
À chaque fois,
ils ont
été très, très. Alors après, c'est vrai que à regarder, on s'est pas fait super plaisir, hein, mais. Arsenal avait mis en place une tactique très très forte avec le contre-pressing très très intense. Et moi je me suis demandé si physiquement ils allaient tenir pour le coup.
C'est vrai qu'en fin de première période, on a vu peut-être un peu baisser en rythme les Gunners. Au final, en seconde période, ils sont revenus sur la même lancée malgré ce pénalty.
Et puis le fait d'avoir 5 changements aujourd'hui, ça change quand même tout. Vous changez la moitié de l'équipe, vous mettez la moitié des mecs qui sont frais. Donc finalement, il y a plus trop normalement de problèmes physiques, quoi.
Et puis en deuxième mi-temps, la volonté, c'était clair, c'était défendre. Parce que finalement, ils ont laissé les Parisiens, ils ont pressé beaucoup moins haut en deuxième partie. Et en fin de compte, c'était évident, Arteta, la consigne, c'était vous défendez, fin de l'histoire.
Non, c'est ce que vous avez dit, c'est un match qui n'est pas forcément plaisant à voir, mais c'est un match tactique avant tout.
C'était très tactique.
Arsenal avait sa tactique.
Oui, j'en préfère un match d'échecs, c'était plus rigolo. Voilà, parce que c'est pénible.
Mais après, c'est pour les spectateurs et même les télévisions. téléspectateurs, c'était dur à suivre, parce qu'à chaque fois, ils se heurtaient à ces deux lignes de défense, et souvent, on se posait des questions, à dire quand est-ce qu'ils allaient marquer, quoi. Mais bon, après, c'est ça, le foot,
ouais,
c'est...
C'était même quand est-ce qu'ils allaient se procurer des occasions, parce qu'il n'y a pas pléthore d'occases. Hein.
Il me semble que Safonov n'a pas fait un seul arrêt du match, ou alors peut-être un en tout
cas. Si, quand même, mais c'était vraiment, c'était plus des passes que des tirs, en fait. La seule fois où il aurait dû faire quelque chose, c'est sur le premier tir, mais là...
Il y a eu un tir cadré d'Arsenal dans la rencontre.
Ah, c'est aussi ça, la Coupe d'Europe, hein. C'est convertir au maximum ses occasions, hein. C'est là où, à un moment, on aurait pu s'inquiéter en se disant, pareil, il y a quelques occasions, ils les mettent pas. Arsenal en a une, ils l'ont mise.
Barcola, il en a deux.
Voilà, donc.
Et donc, tout se joue sur une histoire de pénalty, ce pénalty parisien. Il y en a eu, on s'est posé la question, un oublié sur une main de Saka dans la surface, un autre sur une faute sur un attaquant d'Arsenal. Est-ce que, voilà, de votre point de vue, est-ce qu'il y aurait pu avoir un pénalty pour Arsenal qui avait été oublié? J'ai été avergé,
non? Non, je pense pas. Puis en plus, l'arbitre, je veux dire, il a tenu sa rencontre, il a vraiment été à la hauteur de l'événement, et c'est vrai que c'est un monsieur dans l'arbitrage. Bon, c'est
qui n'a pas été sélectionné pour la Coupe du Monde, il faut le rappeler.
Ah ben ça, il faut aussi savoir que vous faites une Champions League, après derrière il y a la Coupe du Monde, dans votre pays, dans votre fédération, vous n'êtes pas le seul, quoi. Je veux dire, il y a aussi ce choix des fédérations et de la FIFA qui est au-dessus pour aussi récompenser tous ces arbitres, parce que tu ne peux pas en prendre 36 de la même fédération.
Ouais, enfin, moi je revenir sur la main de Saka, et en fin de compte, il n'y a pas une main, il y a deux mains sur la main de Saka. La première, effectivement, on pourrait dire que la première, elle n'est pas grave.
Il faut expliquer, c'est un rebond sur le corps du joueur, puis ça rebondit sur la main.
Voilà, mais la deuxième, c'est pas un rebond, c'est la main de la main, et on voit qu'il pousse très nettement la balle en avant, et pas en arrière.
C'est pris pour Wembanyama. Hein.
On en parlera de Wembanyama.
Et il a bien, on voit que sur la deuxième main, là, il y a matière à discuter vraiment.
Ouais, je suis d'accord avec Jean-Luc.
Ça s'est occulté. Donc là, ça fait 1-0 pour Arsenal, parce que ça n'a pas été si fou. Donc, est-ce que l'arbitre n'a pas compensé sur la poussette qui est faite dans la deuxième mi-temps sur, je ne sais plus, c'est sur Eze,
l'attaquant d'Arsenal qui n'était pas
suffisant. Est-ce qu'il n'y a pas une compensation de faite par l'arbitre en disant, finalement... Ils ont peut-être qu'à la mi-temps, ils ont vu le truc, ils ont dit, oh putain, j'en ai fait une belle, là. Et peut-être... Il y a eu, à mon avis, une compensation là aussi.
Sur cette action-là, moi j'ai regardé après, décortiqué par Tony Chaperon dans toutes les émissions qu'il y a derrière, et Tony Chaperon et le ralenti est intéressant, parce qu'on voit bien la main de Madueke.
C'est lui
qui accroche Nuno Mendes, en fait.
Et qui l'amène au sol.
Et qui embarque Nuno Mendes dans sa chute, volontairement. Bon, après, l'arbitre est super bien placé, pour le coup. Il est à 3 mètres de l'action.
Et la VAR a le temps, puisque l'action
la
est super longue après.
L'action est très très longue, le ballon ne sort pas, et la VAR appelle pas. Donc, pour moi, sur celle-là, il n'y a pas de sujet, effectivement. Alors, à vitesse réelle, devant nos écrans, on s'est dit, oh punaise, on s'en sort bien. Et en fait, non, il a bien arbitré, pour le coup. Mais d'ailleurs, il a plutôt bien tenu sa finale.
Il doit aussi, lui, l'arbitre, c'est lui aussi qui sollicite la VAR ou non. Parce que des fois, c'est la VAR qui sollicite. Et peut-être que là, sur cette finale, il a dû leur dire que c'est moi qui vais vous solliciter. Parce que, je veux dire, c'est moi l'arbitre. Vous êtes là, vous avez le temps de regarder le ralenti, mais dans le feu de l'action, moi, si je suis bien placé, ok, mais si je suis mal placé, ok, je ferai appel à vous. Mais la VAR, moi, je m'excuse, mais moi, je suis un peu comme Platini, moi, je suis pas trop sur la VAR, parce que le football, c'est instinctif, rappelez-vous, hein, la main de Maradona, après, on va critiquer la main d'Henri, mais, je veux dire, le résultat, il est le même. Le but est marqué, et après...
Petite question également, on a discuté sur ces pénaltys, il y a aussi cette action... litigieuse ou pas, en fin de première période, Arsenal qui bénéficie d'un corner, les Gunners qui prennent du temps à le tirer, et l'arbitre qui siffle mi-temps alors que le corner est prêt à être tiré. Là aussi, on peut se poser la question, est-ce que si ça avait été de l'autre côté, les Parisiens ont un corner à la 45e, prennent du temps pour le tirer, l'arbitre siffle la mi-temps, est-ce qu'on se dit pas, oh, on a été lésés, là, ils nous ont pas laissé tirer le corner?
Je pense pas. Moi, je pense que l'arbitre, quand il a commencé à voir qu'il gagnait du temps, il a dû appeler le capitaine pour lui dire...
Maintenant,
il a discuté plusieurs fois. Je veux dire, ça a été l'occasion de leur dire, c'est moi le patron sur le terrain.
Le corner en question, il fait suite à une touche où ils sont trois à succéder avant de faire la touche.
Faire la
ça
touche,
prend 40 secondes. Voilà. Et effectivement, je pense que je trouve qu'il a bien corrigé son arbitrage, parce qu'à un moment, en première période, justement, il a été un peu coulant, je dirais, sur ce genre de situation. Et visiblement, il prend la décision dès la. Et je pense que c'est aussi pour faire comprendre à Arsenal que la deuxième mi-temps, il va pas laisser passer. Donc là, il dit ah, vous voulez prendre trop de temps ? Ok, poum, allez, le temps additionnel est compté, hop, au vestiaire. Et ils sont restés un peu, effectivement, comme des couillons, mais je pense qu'ils ont dû comprendre le message aussi.
C'est une forme de sanction, et elle est bienvenue, finalement, parce que puis c'était la fin de la mi-temps, de toute façon, donc il fallait effectivement montrer, à un moment ou un autre, qui était le patron.
Je suis en partie d'accord avec vous, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, comme au basket, par exemple, où l'arbitre vient expliquer, il n'y aurait pas besoin aussi d'expliquer. C'est aussi le foot, c'est 80 000 personnes dans un stade, 60 000, je ne sais plus combien ici à la Puskás Arena, mais il y a aussi des millions de téléspectateurs qui ne comprennent pas, peut-être pas, de devoir expliquer certaines situations comme celle-là où simplement, voilà, Arsenal gagne du temps. J'ai décidé de dire stop.
Il l'a expliqué aux joueurs, il l'a expliqué au capitaine. Léo, vous soudez un autre point. Est-ce qu'on met un micro aux arbitres pour expliquer les choses?
On y vient.
Ils en ont dans certaines championnats de France. Ils en ont à certaines occasions.
Voilà, mais rarement. Ça reste très rare. Visiblement, l'expérience, si elle n'est pas étendue, c'est qu'elle ne doit pas être si concluante que ça. Contrairement au rugby, effectivement, voilà. On a un arbitre qu'on entend dans tout le stade. Là, c'est pas le cas, mais c'est un autre sujet pour moi.
Mais au rugby, vous avez la sirène.
Non, mais l'arbitre, à chaque fois qu'il explique une situation et qu'il rappelle les joueurs, tout le monde entend. Donc, et à la télé, tout le monde entend.
Le foot, des fois, tu vois, en Angleterre, c'est 10 minutes d'arrêt de jeu, quoi, je veux dire.
Et ce sera pareil à la Coupe du Monde, ils ont déjà prévenu qu'il y aurait pas mal de temps additionnel pour cette Coupe du Monde.
Oui, mais c'est les fameuses réformes de Coupe du Monde, comme on a tous les 4 ans, et qui sont appliquées le temps d'une Coupe du Monde, éventuellement 3 mois après, et qui se perdent au fur et à mesure du temps.
Avant de parler de cette Coupe du Monde, en revenant au Paris Saint-Germain, est-ce que le Paris Saint-Germain fait un beau champion une nouvelle fois, Olivier Ledain?
Ce n'est pas moi qui vais vous dire non. Je vais complètement manquer d'objectivité. Si on est un peu honnête, regardons qui ils ont battu sur le parcours. Effectivement, ça tape le Bayern, ça tape Liverpool, ça tape Arsenal en finale. En phase de poule, on ne peut pas dire que le PSG a été gâté par le tirage. Il n'a pris que des gros. C'était quasiment en tant que champion, c'était le parcours le plus difficile en phase de poule. Les huit étaient les plus difficiles. Donc, je pense qu'ils ont rien volé. Et encore une fois, je pense qu'il faut quand même dire un mot sur Luis Enrique, Monsieur Luis Enrique.
Troisième Ligue des Champions pour lui.
Au-delà de ça, il avait prévenu en conférence de presse au mois de décembre, quand c'était pas encore ça tournotait pas encore à fond. Il avait dit je ne vois aucune équipe plus forte que nous dans cette phase de groupe. Voilà.
C'était dit. Et il a déjà annoncé la troisième, il me semble, pour l'an prochain.
Non, alors lui, il a été beaucoup plus prudent que les joueurs.
Il y a une image devant le bus où il voit les deux et il dit troisième, quatrième, cinquième, sixième.
Bon, si déjà on ne s'attendait pas à la deuxième, franchement, on n'osait pas y croire en tant que supporter du PSG, on n'osait pas y croire.
Mais bon, avec le parcours.
Mais le parcours, non, pour moi, il souffre. Même si Arsenal fait aussi un bon parcours, si on remet en exergue les équipes rencontrées, Paris a rencontré du plus lourd qu'Arsenal.
Bien évidemment.
Le Bayern, là.
Je mettrai un petit bémol quand même. Le Bayern, effectivement, c'était un gros morceau, mais autrement, avant, Chelsea. Bon, c'est une équipe qui meurt, mourante là. Il y avait vraiment Liverpool.
Ouais, mais champion du monde des clubs quand même, Chelsea.
Ouais, mais on a vu le début. Ils finissent combien dans le championnat anglais là?
Oui, c'est vrai que c'est pas une saison excellente pour Chelsea. On est d'accord.
Liverpool, c'est pareil. C'est pas non plus des flèches en ce moment. Il y a eu quand même. Je pense qu'on a un petit peu gonflé les muscles là, mais par contre sur le Bayern. Là, il n'y a vraiment rien à dire. Là, on a montré ce qu'ils savaient faire. Ils ont montré ce qu'ils savaient faire. Et il n'y a pas de discussion possible. En plus, ça a été deux matchs intenses. Et deux jolis matchs que j'ai bien préférés, d'ailleurs.
Sans finale avant l'heure. C'est vrai que là, le Bayern, c'est un peu comme l'an dernier.
Si on reprend le tableau de cette Champions League, le tableau final, sur la partie droite ou haute, selon comment on le regarde, il y a juste deux anciens vainqueurs sur les 16 clubs. Et de l'autre côté, il y a 14, je crois, anciens vainqueurs. Donc, côté où était Paris et tous les adversaires battus, le Real, Manchester City, etc. Donc, Voilà, quand même.
Et les Parisiens qui ont été récompensés de cette belle campagne européenne, puisqu'on va parler un petit peu de cette équipe type. On peut quelques mots sur les joueurs qui ont été nommés par l'UEFA. Alors dans les cages, il y a le gardien d'Arsenal, David Raya, qui comme non,
rien à dire
comme en Angleterre. Non. C'est un gardien qui rassure
beaucoup.
Arsenal a trouvé son gardien. Ça fait des années. J'imagine que vous suivez aussi les Gunners qui se cherchent un gardien titulaire. Et là, David Raya a trouvé sa place.
Ah non, mais rien à dire sur lui, oui.
En défense, Nuno Mendes, le Parisien, malheureux Gabriel qui a raté son pénalty, Marquinhos et Marcos Llorente de l'Atlético Madrid. Peut-être un peu surprise cette dernière nomination, c'était pour donner une place à un autre joueur ou vraiment mérité?
Je pense qu'elle n'est pas volée, celle de Llorente. Hakimi a été moins présent que sur la campagne de l'an dernier, avec quelques blessures, avec la Coupe d'Afrique des Nations qui l'a aussi tenu éloigné, la blessure contre le Bayern sur le match de phase de groupe. Il a été moins tranchant qu'il ne l'a été l'an dernier et moins décisif, donc je suis pas surpris. Llorente fait une belle campagne avec l'Atlético.
Marquinhos plus que Saliba, du coup. Il fallait en donner un à Paris, un à Arsenal. On pouvait pas avoir les deux Gunners ensemble.
Je pense que ça, effectivement, ils ont cherché à composer un de chaque. Ils auraient pu faire du Saliba Pacho aussi, parce que je pense que à la limite, j'aurais presque plus légitimé le Saliba Pacho que le Marquinhos Gabriel Jesus.
Je suis d'accord.
Le capitaine soit
Marquinhos un petit peu lent maintenant, oui. Un petit peu en dessous, je trouve, au niveau. Il a pas le même impact. Il a toujours un impact. Il a une aura au niveau de l'équipe.
En plus de l'impact sur le terrain, il a aussi l'impact.
C'est le cadre, mais ceci étant, en termes de joueur, c'est plus vraiment. C'est pas.
Ouais, sauf qu'aujourd'hui, il transfère. Il donne une confiance à ses coéquipiers.
Oui, c'est ça, c'est un cadre.
Qui est vraiment important.
Et puis, très respecté. Parce que...
Et puis après, on peut parler de milieu ou d'attaque, alors qu'on va tous les nommer, hein, Kvara, Vitinha, Declan Rice, Michael Olisée, Harry Kane, Dembélé. C'est pas mal ce 6.
Ça fait une belle équipe. Hein.
Offensif. Des Parisiens, des joueurs d'Arsenal, du Bayern.
Bayern, oui.
Il y avait d'autres joueurs, je pense à un Kylian Mbappé, non, il n'a pas sa place dans cette équipe.
Il finit meilleur buteur de la campagne, malgré tout, mais Harry Kane ne vole pas sa place non plus. Je pense qu'aujourd'hui, Harry Kane est plus impactant que Mbappé sur le résultat. Ouais. Et après, sur Vitinha, Olisée, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur son aile droite. Vitinha, effectivement, c'est le métronome.
Declan Rice,
pas grand-chose à dire non plus, non. Et, ça paraît assez légitime, c'est les équipes qui vont loin en plus. Donc,
et Kvara, le Parisien, qui est élu meilleur joueur de la compétition. Alors, on en a parlé un peu en off, j'entends souvent Kvara, est-ce qu'il est tant décisif que ça? Est-ce que c'est le joueur, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain? Quand on voit que juste à côté, il y a Ousmane Dembélé qui est Ballon d'Or. Voilà, Kvara, c'est peut-être un joueur qui se montre moins, mais qui, sur un terrain, est un magicien.
Bah, les deux ne se montrent pas trop. Ce ne sont pas des joueurs médiatiques. Hein. Ce ne sont pas des joueurs que vous allez avoir à l'interview qui vont venir ouvrir leur bouche.
Mais ce n'est pas pour ça qu'on les élus, qui sont élus.
Non, mais pour le coup, donc, ils ont le même niveau médiatique. Ils sont humbles et ils restent dans leur coin. Mais Kvara, sur la campagne dont on parle, c'est 16 buts, passes décisives.
Décisives sur les phases finales aussi.
Voilà, c'est quand même un chiffre qui marque, et puis décisif sur toutes les rencontres à enjeu là, à partir des quarts de finale, je crois, ou même déjà en huitième.
En huitième, il est
donc, surtout, il marque à chaque fois, il fait une passe D à chaque fois. Donc,
ouais. Et il faut aussi remarquer que c'est aussi il a été le départ de la campagne victorieuse du PSG. C'est-à-dire que dès qu'il a été intégré, le PSG a démarré. Alors, à mon avis, il a quand même été le détonateur de par sa manière de jouer, quoi. Il a vraiment tiré la charrette. Et je pense que les joueurs s'en sont aussi un petit peu inspirés, parce que c'est quelqu'un qui est... le mec sur le terrain, le maillot, il lui faut 12 maillots à la fin. Parce qu'il
et puis on l'a vu sur cette finale avec son tibia complètement déchiré. J'imagine qu'il s'était blessé à l'entraînement quelques jours avant sur un synthétique, mais voilà, c'est un guerrier. Dont le PSG avait besoin.
C'est un déclencheur. C'est un déclencheur.
Ouais, je suis d'accord avec Jean-Luc. Pour moi, c'est le vrai game changer. C'est-à-dire que quand le match est un peu bloqué, Dembélé peut le débloquer, mais je trouve que Guevara est encore plus impactant que Dembélé. Voilà, parce qu'il a été plus solide. En tout cas, sur cette campagne, il a été plus solide. Effectivement, l'an dernier, je pense que Dembélé était plus impactant. Mais sur cette campagne, le vrai game changer, c'est Guevara, quoi.
Et puis le but en finale, c'est aussi grâce à lui.
C'est lui qui va le chercher, c'est lui qui provoque. Et surtout, on parlait de Luis Enrique, c'est lui qui respecte à la lettre la consigne de Luis Enrique. C'est-à-dire que vous le voyez défendre aussi bas que Nuno Mendes pour récupérer le ballon parfois. Donc, le gars, il fait je ne sais pas combien de kilomètres par match sur son aile gauche. Donc, maintenant, il n'y a pas grand-chose à dire sur Guevara.
C'est 150 mérité. Kilomètres, ils ont couru les mecs d'Arsenal contre 140 les joueurs du PSG. Je crois qu'il y a
après, c'est sur 120 minutes, mais c'est... Voilà,
il y a 10 kilomètres. Non, mais il y a 10
kilomètres par joueur.
D'écart, c'est quand même pas mal. En termes de possession, c'est
75-25.
75%, ouais, c'est ça. Oui, des centaines de passes réussies pour les Parisiens contre à peine 200 ou 300
alors,
pour les joueurs.
On va pas dire que le PSG a la puissance pour faire ça. Il y a eu la volonté d'Arsenal, justement, de ne pas attaquer. C'était une volonté délibéré de se mettre dans cette position-là en tant que défendeur. Et puis le nombre de passes, c'est phénoménal. Il y a 600 passes contre 150, un truc comme ça.
On n'est pas sur des passes impactantes.
C'est de la folie.
Décisive,
quoi.
Mais je me rappelle d'une époque qui n'est pas très lointaine avec le Barça où on disait le Barça, c'est leur jeu et puis le Barça gagnait tout.
Après, c'est lié aussi à la volonté d'Arsenal de refuser le jeu, de se mettre tous derrière. Et donc, il y a eu. Ça ressemblait à un match de hand à un moment. Hein, ça tournait
tout à fait ça. Tout à fait ça. Le mec, il joue en zone et puis on tourne autour de la zone.
Exactement.
Pour ces joueurs du Paris Saint-Germain, ces joueurs d'Arsenal, il y en a beaucoup qui seront à la Coupe du Monde dans quelques jours. Très peu de repos pour eux et direction avec des matchs amicaux, la compétition qui démarra, il me semble, c'est le 12 juin pour nous, la Coupe du Monde. On est prêt à la suivre.
Bien sûr.
Oui,
on va la suivre, oui. Mais bon, maintenant, c'est toute une question de récupération pour tous ces joueurs qui viennent de finir, là. Aussi bien les championnats que les coupes, là, entre. L'Europa League et tout ça. Donc maintenant, il faut qu'ils récupèrent au maximum, et puis après, on verra l'état de forme lors du premier match.
Parce que si on regarde tous les joueurs, si on regarde tous les joueurs, les joueurs du PSG, il y en a 5, et c'est,
oui, mais on parle
et c'est des cadres.
On parle que de l'équipe de France.
Justement.
Parce qu'il y a aussi les autres sélections.
Il y a Olise qui est au Bayern, donc ils ont quand même joué assez tard aussi. Mbappé et puis Tchouaméni, qui est au Real, qui ont quand même joué assez tard aussi.
Saliba Arsenal.
On a toute notre stature quand même. Et les mecs, ils sont un petit peu à bout de souffle.
C'est pas que pour l'équipe de France. On peut pas non plus se protéger derrière ça et dire il y a que les Français qui ont des joueurs fatigués.
Non, mais
quand même.
C'est vrai que c'est pour
les Anglais.
Aujourd'hui, c'est pour tout le monde.
Les Italiens.
Non.
C'est ça.
Oh, t'es méchant.
C'est moche. Une pensée pour Ricardo.
Oui.
Non, c'est pour toutes les équipes, puisque aujourd'hui, quand il reste des moments de repos, la FIFA ou l'UEFA arrivent à remettre une Ligue des Nations, un championnat du monde des clubs, une coupe ceci, une coupe cela. Donc, il n'y a plus de temps mort, en fait. Donc aujourd'hui, ça, pour moi, ça va être valable sur toutes les équipes. Alors, à part, effectivement, Haïti ou Curaçao, là, les toutes petites équipes, sur le papier, qui vont effectivement être peut-être à leur max, mais la plupart de tous les cadors européens, tous les cadors sud-américains vont se retrouver, et les Africains, pareil, avec au moins trois quarts de leurs joueurs qui jouent en Europe, qui ont joué tard, qui ont joué 80 ou 70 matchs dans la saison. Donc c'est aujourd'hui, ça fait partie intégrante de la problématique d'un sélectionneur. Donc je pense que sur les matchs amicaux, là, j'ai pas regardé
aura deux pour la France,
en tout cas, j'ai pas regardé ceux qui ont lieu ce matin en termes de composition, mais je pense qu'il y a eu un turnover important par rapport à l'équipe type qui démarrera pour chacune des nations.
La France qui affrontera la Côte d'Ivoire, l'Irlande du Nord, ce sera vendredi et mardi, avant de débuter contre le Sénégal le vendredi 17 juin.
Je pense que Deschamps va faire tourner au maximum, je peux vous dire que ceux qui ont joué la finale avec Deschamps, champions, ils ne seront pas sur la feuille, bien sûr.
C'est logique.
Oui, c'est tout à fait logique. Ça, c'est sûr que ces matchs de préparation, ils servent à cela, c'est de trouver les bons remplaçants, comme on dit, aux titulaires, parce que c'est là où, sur ces matchs-là, il aura 90 minutes pour les
tester, pour essayer de nouvelles choses, de nouvelles compositions.
Exactement, c'est ça. C'est l'occasion de faire tourner tout le monde et puis d'essayer les meilleures formules pour au cas où.
Exactement.
Jean-Luc.
Ce qui est un peu ingrat, parce que c'est vrai qu'en fin de compte, on va faire jouer les coiffeurs sur les deux matchs de préparation, et hop, on va faire jouer les titulaires dès le premier match.
Oui, donc, mais ces coiffeurs-là, ils auront peut-être leur place sur le troisième match de groupe. C'est peut-être ça aussi, leur dire, voilà,
on aura besoin de vous. N'empêche que, quoi, les mecs, ils sont... Je sais pas, c'est aussi un petit peu frustrant. Donc, à mon avis, il va y avoir un turnover, mais je pense qu'il va faire jouer quand même les cadors, les cadres sur... ils vont pas jouer longtemps, mais ils vont jouer quand même.
Oui. Alors après... En ce qui nous concerne, l'équipe de France, les coiffeurs, ça commence à être des coiffeurs de luxe quand même.
Oui,
parce que quand on voit les 26 sélectionnés...
On aura le temps d'en parler, on aura peut-être une émission spéciale dès la semaine prochaine pour revenir sur cette Coupe du Monde qui approche à grands pas et dont l'équipe de France fait partie des favoris. En quelques mots, avant de faire marquer une pause dans cette émission, l'équipe de France favorite, oui, non?
Sur le papier, oui, mais après, c'est sur le terrain que ça se gagne un match. Hein. La preuve là, hein. Arsenal, PSG, tout le monde disait que le PSG était hyper favori. Et en fin de compte, un match, c'est un match. Je veux dire, ils mènent 1-0, on égalise à la 60e et jusqu'au bout, ils tiennent. Quoi. Et après, tu gagnes. Moi, je dis, les pénaltys, c'est pile ou face. Hein, voilà,
Jean-Luc Leroux, favori.
Deux premiers matchs, Sénégal, Norvège.
Irak d'abord. Non, et Norvège, c'est le dernier.
Dans le match de poule, c'est bon, l'Irak, ok. Ça devrait être une formalité, mais il y a quand même Sénégal et Norvège. Ça va quand même pas être trop facile. Pense que déjà, il faut déjà qu'on passe le premier tour avant de commencer à penser à la suite. Et là, moi, je sais pas.
Olivier Ledain.
Effectivement, sur le papier, on est favori, mais on a déjà connu ça. Hein. Je vous rappelle qu'en 2002, on est super favori. On a les trois meilleurs buteurs des trois grands championnats européens. On met pas un but, on est sorti au premier tour en perdant contre le Sénégal le premier match de poule. Donc voilà, ça serait bien d'avoir de la mémoire. Et je pense que Deschamps en a. Donc je pense qu'il va bien mobiliser tout le monde. Après, ça va aussi jouer, je pense, sur l'état. Les premiers matchs, pour moi, vont aussi jouer sur l'état de fraîcheur. C'est-à-dire que vraiment, à la limite, les coiffeurs joueraient, pour le coup, je serais moins surpris parce que je pense qu'ils seront plus frais que la grosse armada. Cette Coupe du Monde va durer une semaine de plus que les précédentes. Elle est à 48 équipes désormais au lieu de 32. Donc
plus long.
Déjà, voilà, on disait que c'était long et qu'il fallait gérer son effectif. Mais là, c'est encore plus vrai.
Et on en reparlera bien évidemment de cette
matchs, non,
Coupe du Monde.
Pour aller au bout.
Je vais faire l'arbitre, je vais pas siffler parce que je l'ai pas, mais c'est la mi-temps. L'arbitre décide, on se retrouve dans deux petites minutes.
Ouais, mais là, tu sais tout le monde, il y a le corner.
RRB, la pub. Le tout info continue avec la BCI. Particulier, professionnel, entreprise, avec la BCI, des solutions sur mesure pour construire et accompagner tous vos projets. BCI, ensemble, voir plus loin.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
De retour pour cette semaine sportmidable. Vous avez entendu, on a été coupé, mais l'arbitre gère l'émission. Voilà, il a décidé, c'est la pause. On reprend tout de suite avec du tennis. Roland Garros sur les courts à Paris, en métropole. Olivier Ledain, ce Roland Garros spécial. Beaucoup de favoris éliminés, beaucoup de surprises. À quoi s'attendre pour la deuxième semaine?
Ah bah là, à quoi s'attendre? Ça, c'est la question piège parce que il y a eu une première semaine où pour continuer sur le football, ça a été que du contre-pied depuis le début de la semaine. Sinner éliminé dès le deuxième tour, hein, c'est quand même le grandissime favori en l'absence d'Alcaraz. C'était c'était le banger de ce début de semaine. Djokovic le lendemain qui saute aussi face à Fonseca, ce qui pour moi était un peu plus prévisible. J'en avais parlé avec un copain, je lui avais dit ça va être chaud pour Djoko, et donc
ça a été chaud pour tout le monde, hein, si on parle de chaleur, parce que tous les joueurs sont en pleine
canicule pour le coup. Ceci dit, pour moi c'est vraiment une demi, alors la seule différence c'est qu'il joue comme ça sous des chaleurs assez importantes toute l'année. La seule différence, c'est que la saison sur terre battue qui avait lieu Monte Carlo, Rome, Madrid, a pas eu lieu pour le coup sous des chaleurs importantes et plutôt même avec un peu de fraîcheur. Donc je pense que les organismes n'étaient pas préparés. Sinner a reconnu lui-même qu'il avait peut-être un peu trop joué en jouant les 3 Masters 1000 avant, en allant au bout des 3 Masters 1000 et du coup un peu cramé. Mais en tout cas, alors ce qui est très plaisant, c'est que le tableau est super ouvert. Il y a Zverev dont on attend qu'il gagne enfin son premier grand chelem.
La voie lui est...
À un boulevard. Mais est-ce qu'il va y aller? Est-ce qu'on ne va pas avoir un Roland de surprise comme on n'a pas eu depuis une quinzaine, vingtaine d'années, quoi.
Chez les hommes comme chez les dames. Mais restons chez les hommes pour l'instant, parce que vous avez parlé d'Alcaraz, de Sinner, Djokovic,
Shelton,
Fritz, Medvedev, Dominor, Rublev. Et il y a la question aussi...
Qui sont des têtes de série, mais qui ne sont quand même pas des joueurs
mais
de terre non plus.
Qui
seraient
au moins
quoi.
Jusqu'en quart de finale.
Et qui doivent aller au moins huitième en tous les cas.
Au moins huitième. Ouais. Et on se pose peut-être la question d'Arthur Fils, si il avait été là.
Mais oui, mais il est pas là, donc il y a pas,
si,
y a pas de sujet. C'est exactement ce que voilà. J'allais dire, Jean-Luc. Non, mais pour le coup.
Oui, mais peut-être s'en mordre les doigts un peu.
Il a été assez clair dans sa conférence de presse. Il a dit si c'est pour jouer deux tours et perdre au deuxième tour, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc après, voilà, on peut le voir comme ça en se disant il a que 21 ans et il se préserve à long terme pour pas casser la machine tout de suite. Et on peut le voir d'un autre point de vue en se disant mais Nadal a joué 80% de sa carrière en étant blessé, abîmé.
On a tous vu le documentaire
sur Netflix.
Si vous l'avez pas vu, allez le voir, il est très intéressant.
Exactement.
Donc,
à un moment, il faut peut-être aussi savoir jouer quand on a mal. Maintenant, le dire après à une semaine de compète, alors qu'on voit qu'il y a plein de surprises, oui, mais je pense que Fils est aussi taillé pour assumer son statut de favori à un moment ou de tête de série. Donc, j'espère qu'on le reverra vite, pas blessé et avec plus d'ennuis de santé. Quoi.
Alors, pas d'Arthur Fils, mais il y a un jeune joueur qui a épaté le monde entier, on peut le dire comme ça, Moïse Kwame, le jeune français, 17 ans, qui s'est retrouvé au troisième tour, qui a joué pour une première fois 5 heures sur à Roland. Ben,
justement, son mauvais jeu de mots était un peu Kwame.
Ouais, mais c'est quand même exceptionnel ce qu'il a vécu, oui. Et ce qu'il a fait vivre aussi au français. On le voit, 17
ans.
Il faut qu'on le préserve maintenant.
Voilà. Il faut qu'on le préserve. Il faut surtout pas qu'on le bombarde.
Qu'on l'envoie sur tous les tournois.
Pour le finir plus vite, quoi, finalement. Il faut le laisser vivre, le garçon, là.
Alors, je pense qu'il est bien encadré, pour le coup.
Richard Gasquet, notamment, dans son staff.
C'est ça. Il y a Richard Gasquet dans son clan, avec Laurent Raymond, qui est un entraîneur fédéral, mais qui est quelqu'un d'extrêmement posé, d'extrêmement serein, qui connaît la musique. Laurent Raymond, il est dans la fédé depuis plus de 20 ans. Donc, je pense qu'ils vont effectivement le gérer. Ce qui va être plus dur à gérer, c'est, je pense, l'aspect médiatique, en fait.
Il est quand même très à l'aise médiatiquement parlant,
Il est à l'aise, on le sent à l'aise, effectivement, mais c'est pas le fait d'être à l'aise ou pas, c'est les sollicitations auxquelles il va être confronté désormais, qui sont hyper énergivores, qui peuvent faire perdre la tête aussi. Et là, pour le coup, il a le coach parfait, puisque Richard Gasquet a connu ça. Richard Gasquet fait la une de Tennis Magazine à 14 ans, en écrivant en titre, c'est le nouveau Noah. Donc, voilà, ça lui a brisé sa carrière, donc je pense que Gasquet va s'attacher à prévenir Kwame de ce genre d'aléas. Quoi.
Les autres aléas dont on peut parler, c'est peut-être aussi les prize money. Il n'avait jamais connu ça avant. Autant d'argent sur un seul tournoi pour un jeune comme ça, ça ne peut pas faire tourner la tête aussi?
Non, je ne crois pas, parce qu'il a l'air effectivement, de bonne constitution, d'avoir eu une éducation qui fait que la valeur de l'argent, on sait ce que c'est. Et puis, c'est surtout, il est dans la phase... Alors, encore une fois, il n'a que 17 ans, il faudra peut-être le rappeler. Et il est dans la phase où il va devoir construire son team. Et donc l'argent qu'il va gagner... Alors, déjà, pour info, l'argent qu'il va gagner à Roland-Garros, il ne pourra pas le toucher avant ses 18 ans, donc en mars 2027. Il lui servira, je pense, à structurer son équipe, à rajouter un kiné, un diététicien, comme font tous les sportifs de haut niveau, et les tennismans en particulier, comme l'a fait Djoko et Nadal et Federer avant lui.
Je dirais patience, ne nous emballons pas, laissons venir. Il y a Boisson l'année dernière qui avait fait le Roland-Garros magnifique. Cette année, Boisson,
éliminé au premier tour.
Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas s'emballer. Il est 17 ans, c'est bien, il joue bien.
Il a encore 20 ans de carrière devant lui.
Je l'ai regardé jouer, c'est vrai qu'il joue très bien. Il a un potentiel, on le voit très clairement. Mais on va lui foutre la paix, on va le laisser grandir.
Oui, il a du potentiel. Après, voilà, il faut être capable de passer le cap. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a pas, ils ont décidé de pas jouer de junior, alors qu'il aurait pu dire je passe un tour ou deux éventuellement sur le tableau senior et je vais jouer le junior derrière. Donc ils sont déjà sur une phase où voilà, on va sur la partie senior. Donc là, peut-être que la fameuse transition qu'on ne sait pas très bien faire en France entre juniors, où on a eu beaucoup de numéro 1 mondiaux, et seniors, qui derrière ont été, je ne vais pas dire des flops, mais en tout cas, qu'on pas gagné de grand chelem, puisque c'est aussi ça un peu le juge de paix.
Bah, on pense à Gaël Monfils qui a arrêté sa carrière cette année à Roland-Garros aussi.
Oui, oui, mais bon, après, voilà, cette génération, Gaël Monfils, Tsonga, Gilles Simon, ils ont quasi tous tiré le maximum, peut-être sauf Gaël, de leur potentiel. Gaël pouvait sûrement faire plus parce que c'était un extraterrestre au niveau physique et que s'il avait bossé un petit peu plus à certains moments, il aurait peut-être pu en décrocher un. Après, il ne faut pas non plus minimiser la période dans laquelle ils étaient. Prendre un grand chelem dans la période où il y avait le Big Four ou le Big Three, c'était quand même quelque chose, quoi.
Alors, quand on parle de Big Four, Big Three, il y avait Djokovic, Federer,
Nadal et éventuellement Murray. Voilà.
Wawrinka qui était là aussi.
Wawrinka est le seul à avoir réussi à installé dans les trois premiers à prendre des grands chelems. Donc, voilà, c'est vraiment le seul.
Et on va parler un peu des dames aussi, puisqu'il reste quand même une Française, Diane Paré, qui est en huitième de finale,
ouais, bien.
Qui jouera ce soir contre une qualifiée. Donc bon, là aussi, on va dire, oui, elle est favorite, mais la partie n'est pas encore jouée.
Sur le papier, c'est facile. Après, une fois qu'on est sur le terrain, tout va dépendre de ce qui va se passer sur le terrain, finalement. Moi, je regarde plus les Ukrainiennes en ce moment. Je trouve que...
Il y aura une Ukrainienne en demi-finale, hein,
C'est très sympa. Je trouve que les deux sont des personnes très attachantes qui jouent finalement bien. J'étais étonné, moi, du niveau de Svitolina qui grimpe petit à petit, sans rien dire, dans son petit coin, qui fait son chemin, qui
a livré une grosse bataille hier soir sur Bencic.
Ouais, 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 qui met un 6-0 dans le troisième, quand
même. C'est ça. Oui, mais voilà, Bencic l'a quand même bien secoué pendant un 7,5. Ouais.
Et puis Kochiouk, qui vient de se sortir quand même Świątek.
Ouais, le fantôme de Świątek, oui, je dirais. Oui. Moi, je suis désolé.
Mine de rien, quand même, mais elle a des coups qui sont des coups.
Mais elle joue très, très bien, effectivement. Je suis d'accord avec Jean-Luc.
Donc, elles sont déjà qualifiées les deux pour l'écart. Elles s'affronteront en quart de finale. Il y aura donc une Ukrainienne.
Je pense que ça va être sympa. Je pense que ça va être sympa à voir ce match. Ensuite, bon, Sabalenka, c'est ce que c'est.
Elle n'a jamais remporté Roland-Garros. Elle fait du coup office de grande favorite avec Świątek qui est éliminée, Rybakina, Mboko, Goff, Anisimova, Bencic, Paolini.
À la star de Zverev chez les hommes, elle a effectivement sur le papier un boulevard maintenant. Il faut être capable d'y aller.
Il faut finir.
Et puis les conditions vont lui être un peu moins favorables, je pense, en cette deuxième semaine, cette première semaine où il faisait très chaud, donc avec une terre très rapide qui convient probablement mieux à son jeu. La terre va être plus lente, un peu plus humide. Peut-être que ça va même jouer certains jours avec le toit. Donc. Peut-être que ça ne va pas l'avantager en tous les cas. Mais elle a une partie de tableau qui doit l'emmener normalement en finale relativement tranquillement. Mais bon, voilà.
On va suivre ça.
On est visiblement pas au bout de nos surprises sur ce Roland 2026.
C'est ça, dès ce soir avec la fin des huitièmes de finale. Et donc, chez les hommes, Zverev, chez les dames, Sabalenka, on est à peu près d'accord sur les favoris. Sur les favoris, bien évidemment. On sait très bien ce qui se passera après sur le court. Oui, ça vous va.
Moi, je mets une petite pièce sur Fonseca, le Brésilien, quand même.
Vous l'aurez dit chez nous en premier.
Ok, on l'aura. C'est dit.
Fonseca. C'est la fin de cette émission. Dans quelques minutes, on va peut-être vous laisser le temps des coups de cœur, coups de gueule, peut-être. Je ne sais pas, Olivier Ledain, on va commencer avec vous.
Eh ben, je vais commencer par un coup de cœur. Et pour une fois, je ne vais pas aller sur mon sport, mais sur un ballon orange et un peu plus gros que le ballon de foot. Au basket, exactement. Avec Victor Wembanyama qui est en finale NBA, qui a tenu les Spurs depuis le début de la saison quasiment, qui les a encore portés sur le match 7 contre Oklahoma City. Donc,
élu MVP des finales.
Élu MVP des finales. Et donc, on espère que, voilà, malgré que je sois un grand fan des Knicks, j'espère que les Spurs vont battre les Knicks et que Wembanyama va être champion NBA pour la première fois à son jeune âge, de 2 ans après son arrivée aux États-Unis, ça serait incroyable.
Et si je peux me permettre, Wembanyama qui porte l'équipe, mais qui s'est aussi laissé la place à ses coéquipiers qui font une saison stratosphérique, hein, le rookie, les jeunes rookies, tous ses coéquipiers.
Il porte son équipe, il porte vraiment, c'est le leader et ils ont construit l'équipe autour de lui, mais il est à la hauteur, sans mauvais jeu de mots pour le coup.
Jean-Luc Leroux ?
Moi, j'ai le même, je suis désolé, je ne vais, vais pas inventer l'eau froide ni l'eau chaude. Non, non, ben, Wemby, pour moi, c'est l'homme du mois pour l'instant. Il a porté les Spurs, j'ai vu quelques matchs. Bon, il est passé à côté du 5, match 5, il n'était pas là du tout. Enfin, il était là, mais il n'était pas là. Je pense qu'il avait un petit coup de mou, mais il a vraiment une manière de... Puis il a une vista qui est impressionnante. Moi, je trouve que ce mec-là, là, il a tout compris au niveau du basket. Et il a un entraîneur qui a tout compris aussi.
Et on l'a vu aussi à la fin de la rencontre, Wembanyama en pleure parce qu'il vit pour ça.
Ouais. Là, donc voilà, mon coup de cœur, c'est Wembanyama.
Et on va suivre du coup les dernières rencontres, donc entre 4 et 7 matchs selon comment ça se passe pour cette finale. Oui. On va terminer avec vous, Gilles Tavergeux, votre coup de cœur.
Ben moi, je vais être sur le PSG. Je vais pas...
on y revient.
Voilà, on y revient, hein, la deuxième étoile. Voilà. C'est sûr que il l'avait dit, plus ou moins... Luis Enrique, ben voilà, il l'a fait avec son équipe et puis ils sont allés jusqu'au bout.
Olivier Ledain, oui.
Allez, si j'ai le droit à un deuxième coup de cœur, parce qu'on a fait du Wemby deux fois, je vais mettre un petit coup de cœur sur un joueur dont on parle assez peu, un joueur de foot pour le coup, qui s'appelle Jean-Philippe Mateta, qui a offert la coupe, la Conference League à Crystal Palace, dont tout le monde se dit que lui, c'est peut-être le plus coiffeur de tous les coiffeurs. Mais en tout cas, il est là, il a fait sa saison avec son club et il offre la Conference League à son club. Et petite dédicace aux clubs anglais qui ont failli prendre les trois Coupes d'Europe quand même. Donc,
effectivement. Jean-Philippe Mateta et Maxence Lacroix qui évoluent aussi à Crystal Palace et qui seront à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Merci beaucoup messieurs pour
cette
semaine formidable. On se dit à la semaine prochaine tout de suite, Léana Colombo pour Info Soir.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine formidable sur Radio Rythme Bleu.